Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le G7 se termine à Biarritz aujourd'hui, dernier jour d'un sommet marqué hier par la visite du ministre iranien des Affaires étrangères. Au menu évidemment la question du nucléaire avec des avancées jugées positives par la présidence française. Analyse de Rosalie Lafarge.
Autre dossier important de ce G7, ce sont les incendies qui se déroulent en forêt amazonienne en ce moment. Nous irons au Brésil avec notre reporter Mathieu Mondoloni qui a assisté à l'arrivée des renforts pour tenter d'éteindre ces feux.
La tension continue de monter entre Israël et le Liban. Deux drones israéliens se sont écrasés près de Beyrouth dans une zone dominée par le Hezbollah. Le mouvement promet des représailles, nous dira notre correspondante Laure Stéphan. Et d'ici une dizaine de minutes, Guillaume, la question du jour.
Eh bien, affaire Epstein, pourquoi ouvrir une enquête en France? On posera la question à l'avocat au barreau de Paris, de New York et de Californie, Pierre Ourcade.
Dernier jour de ce G7, donc à Biarritz ce lundi. Une dernière journée qui s'achèvera par des conférences de presse cet après-midi, notamment celle d'Emmanuel Macron et de Donald Trump. Les deux chefs d'État qui ont affiché leur dissension lors de ce G7 sur de nombreux dossiers, particulièrement sur la question iranienne. La France a tenté un coup diplomatique avec la visite hier du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Une visite éclair de quelques heures puisque le ministre iranien a quitté Biarritz hier soir. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Un séjour rapide donc pour Mohammad Javad Zarif qui a pu s'entretenir avec Jean-Yves Le Drian, mais aussi avec Emmanuel Macron.
Oui, ils ont discuté pendant 3 heures, d'abord entre ministres des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif et Jean-Yves Le Drian, les deux hommes rejoints dans la dernière demi-heure par le président Emmanuel Macron. Des conseillers diplomatiques allemands et britanniques ont été associés à la rencontre, mais le ministre iranien n'aura vu aucun autre chef d'État ici à Biarritz. Cette venue s'est organisée au dernier moment, après le premier dîner des dirigeants du groupe, samedi soir, probablement le premier étalage des divergences entre les 7 dans l'épineux dossier du nucléaire iranien. Selon l'Elysée, tous se sont mis d'accord. Sur 2 points, l'Iran ne doit pas se doter de l'arme nucléaire et il faut tout faire pour empêcher la dégradation de la situation au Moyen-Orient. Ainsi, Emmanuel Macron aurait obtenu de ses homologues de pouvoir discuter et adresser un message aux autorités iraniennes, sauf que, dans la foulée, Donald Trump s'est désolidarisé de la démarche. Et d'après un diplomate européen, rien n'aurait pour l'instant permis de convaincre le président américain d'alléger les sanctions pétrolières sur l'Iran. Malgré tout, l'Elysée veut voir le verre à moitié plein. Les discussions entre Mohammad Javad Zarif et les dirigeants français ont été positives et vont se poursuivre, a indiqué hier soir la présidence française.
Rosalie Lafarge, un G7 marqué donc par ce coup diplomatique de la France, mais également par un contre-G7 relativement calme. Le sommet des alternatives a quelque peu été étouffé par des forces de l'ordre venues en nombre. Plus de 13 000 policiers et gendarmes répartis entre Biarritz et Hendaye. De nombreux rassemblements pacifiques ont dû être annulés hier. 19 personnes ont été interpellés lors d'une marche anti-G7. Un tel déploiement de forces de l'ordre n'était pas utile, regrette le porte-parole d'Alternative G7, Sébastien Bailleul.
C'est disproportionné parce que là, aucune possibilité n'est offerte à des personnes qui le souhaiteraient de pouvoir manifester même pacifiquement sur quasiment toute la côte basque. Donc on est face à un sommet qui se veut être un sommet où on va trouver les réponses pour soigner tous les grands maux du monde, inégalité, égalité femmes-hommes, enjeux climatiques. Pour autant, c'est un sommet qui se veut complètement hors sol, déconnecté de la population, notamment la population locale du Pays basque, avec toute sa richesse en termes d'alternatives, qui s'est bunkérisée dans un hôtel de luxe. Et on considère, au contraire, et c'est ce qu'a voulu montrer le contre-sommet qu'on a organisé, c'est que pour trouver des solutions aux crises qui nous concernent, les crises sociales, écologiques, etc., il est nécessaire de créer les espaces de débat, parfois des débats qui sont vifs, mais pour autant laisser cet espace-là. Et en l'occurrence, le dispositif qui est mis en place aujourd'hui ne permet nullement ça. Et là, on voit bien qu'il y a une répression forte qui est en cours depuis le lancement du sommet.
Sébastien Bailleul d'Alternative G7 avec Nicolas Balu.
Eh bien, il est 7h04 sur France Culture et c'est la suite des matins. L'autre dossier, Maxime, de ce G7, ce sont évidemment ces feux de forêt qui ravagent l'Amazonie depuis plusieurs semaines.
Et sur ce point, les visions françaises et brésiliennes divergent toujours. Emmanuel Macron s'est voulu très offensif sur cette question pendant le G7. Il appelle à une mobilisation de toutes les puissances. Ce vœu est aussi formulé par le président président colombien Iván Duque. Jair Bolsonaro, de son côté, le président brésilien, reste sourd à ses appels. L'un de ses ministres s'en est d'ailleurs pris à Emmanuel Macron hier sur Twitter, le qualifiant de crétin opportuniste. Sur place, en tout cas, la lutte contre ces incendies commence. Deux avions C-130 ont été envoyés au-dessus de la forêt amazonienne pour lutter contre la progression des flammes. Depuis le début du mois, on dénombre plus de 80 000 départs de feu. La déforestation et la sécheresse sont les principales causes de ces incendies. De nombreux renforts sont attendus, militaires et pompiers. Notre reporter Mathieu Mondoloni a pu assister à l'arrivée de cette aide nouvelle dans l'état du Rondônia à l'ouest du pays, zone particulièrement touchée par ces feux et notamment la capitale Porto Velho.
Ils sont tous au garde-à-vous. D'un côté, les pompiers de Porto Velho à pied d'œuvre depuis des semaines. De l'autre, les 30 militaires de la Force nationale venus de tout le Brésil lutter contre les incendies. Pour les accueillir, le colonel Gregorio, ravi de ce renfort.
Bonjour, bienvenue dans l'état du Rondônia. Je vous souhaite du courage et du succès dans cette mission. La mission première des pompiers, c'est normalement de s'occuper des incendies en ville. Les incendies de forêt, c'est un travail différent. Donc c'est très important qu'ils soient là.
Dans la cour de la caserne, le major Guedes prend en charge les nouveaux arrivants et les prépare surtout à leur nouvelle mission. Nous travaillons avec des petits camions, explique-t-il. À leur bord, 4 militaires. Ils auront sur le dos des pompes à eau qui pèsent environ 20 kg et aussi des étouffeurs. C'est un outil fait avec un manche de bois et une bâche qui permet d'éteindre le feu en tapant par terre. Dans le ciel, deux C-130 Hercules, ces avions capables de transporter 12 000 litres d'eau, ont été déployés par la force aérienne brésilienne. Des avions et des hommes qui doivent venir à bout des quelques 500 feux qui se sont encore déclarés dans la région ces dernières 48 heures.
Le reportage de Mathieu Mondoloni au Brésil pour France Culture. À Hong Kong, la répression du mouvement pro-démocratie par Pékin continue. Hier, 36 personnes ont été arrêtées selon la police hongkongaise. La plus jeune manifestante est âgée d'à peine 12 ans. Les forces de l'ordre ont eu recours au gaz lacrymogène pour réprimer ces manifestations dans la région. Tension qui monte également au Proche-Orient entre Israël et le Liban. Hier, le Hezbollah libanais a accusé Israël d'avoir envoyé des drones à proximité de Beyrouth sur son territoire. L'État hébreu qui a reconnu avoir frappé des cibles en Syrie qui appartiendraient à l'Iran. Dans le même temps, des miliciens pro-iraniens en Irak ont accusé l'armée israélienne d'avoir mené des attaques aux drones. Plusieurs faits qui semblent confirmer leur Stéphane, un regain de tension dans la région.
Pour les autorités libanaises, pas de doute, ce sont de drones israéliens qui se sont écrasés dans la nuit de samedi à dimanche dans la banlieue sud de Beyrouth, la zone où sont installés les bureaux du Hezbollah, bête noire d'Israël. Le premier ministre Saad Hariri, qui est un rival du Hezbollah, a condamné, je cite, une agression et une menace pour la stabilité régionale. L'armée israélienne n'a pas commenté sur la chute des drones, dont le second a explosé, causant des dégâts au bureau des médias du Hezbollah. Hassan Nasrallah, le chef de ce parti armé allié de Téhéran, a usé d'un ton très virulent hier et menacé Israël, qu'il accuse de représailles contre toute attaque aux drones sur le territoire libanais, contre aussi les frappes menées en Syrie samedi soir. Si de nombreuses zones d'ombre demeurent autour de cette chute de drones, y compris sur leur origine et leur lieu de départ, cet incident combiné aux tensions croissantes entre l'Iran et Israël a ravivé la peur au Liban d'une escalade.
Les précisions à Beyrouth de Laure Stéphan. On reviendra sur ce dossier dans la revue de presse internationale tout à l'heure à 7h35. Aux États-Unis, de nouvelles accusations d'agression sexuelle sont portées à l'encontre de l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein. Plus de 80 femmes accusent l'homme de 67 ans de différents abus sexuels. Ces nouvelles allégations pourraient compliquer encore plus sa défense et potentiellement reporter son procès. En France, l'examen de la loi sur la bioéthique débutera au Parlement lors de la session de rentrée à partir du 10 septembre. Mais à partir d'aujourd'hui, 72 députés se réunissent au sein d'une commission spéciale. Le but est d'auditionner le maximum de monde pour faire s'exprimer toutes les tendances dans ce domaine complexe. La question de la procréation médicalement assistée doit notamment être étudiée. Les auditions débuteront à partir de demain. Un épisode de pollution à l'ozone est toujours en cours à Paris et dans l'agglomération parisienne. Conséquence, la circulation différenciée en place depuis hier est reconduite aujourd'hui. Cela concerne le périmètre à l'intérieur de la boucle formée par l'A86, soit Paris et sa petite couronne. Seuls les véhicules qui ont une vignette critère 0, 1 ou 2 peuvent circuler. Et après avoir parlé des feux de forêt en Amazonie, de la pollution en cours en région parisienne et du réchauffement climatique. Il est l'heure à 7h10 de vous proposer une solution qui s'appelle l'éco-psychologie. Il s'agit d'aller à la rencontre de la nature, de se reconnecter aux arbres en pleine forêt. Une pratique qui est en plein essor en Suisse. Jérémy Lanche a d'ailleurs assisté à un atelier à Genève.
Peut-être qu'en passant juste le pouce sur la feuille, comme ça tu peux sentir une certaine fraîcheur. Ça c'est la plante qui respire. On continue ?
La scène a de quoi surprendre. De bon matin, une cinquantaine de personnes qui déambulent pieds nus et les yeux bandés dans un parc en pleine ville. Une personne pour guider, une autre pour toucher et sentir ici un brin d'herbe, là un tronc d'arbre ou encore un chien en promenade.
C'est pas un peu bizarre de se balader comme ça dans la nature, les yeux fermés ?
Oui, c'est vrai. Puis en même temps, c'est un contact avec la nature qui est tout à fait banal, mais qu'on a oublié en fait de nos jours. Quand on se balade dans la rue, on n'a plus l'habitude de toucher les feuilles ou d'écouter les bruits. L'idée, c'est de se remettre à ces choses basiques.
Alexia Rosset coanime l'atelier avec Michel-Maxime Egger, le sociologue et éco-théologien et l'un des spécialistes de l'éco-psychologie en Suisse.
On voit de plus en plus d'intérêt du côté de psychothérapeutes et qui se disent « mais c'est vrai que dans mon cabinet, je vois qu'il y a des souffrances qui sont en lien avec les dégradations écologiques. Qu'est-ce que je peux proposer comme outil ?» Et donc, il y a maintenant aussi de plus en plus de personnes qui s'intéressent à se former pour pouvoir intégrer ça dans leur pratique.
Après 2 heures d'exercice, le plus souvent en silence, les participants repartent plutôt conquis.
Ça donne du courage et ça permet aussi d'éviter de tomber dans la dépression.
D'être avec d'autres personnes pour cette même sensibilité, c'est encourageant. Ça enlève un peu le désespoir, quoi.
C'était très intéressant, très serein à la fin. Et ça remplace une session chez le psy, je dirais que ça la complète.
L'éco-psychologie ne peut donc pas être réduite à un gros câlin avec un arbre. Son succès dépasse les frontières de la Suisse. Des associations en France et surtout en Belgique proposent également des ateliers d'initiation.
Reportage à Genève de Jérémy Lanche. Et le temps de ce lundi va d'ailleurs parfaitement se prêter à la pratique de l'éco-psychologie si vous le souhaitez, puisqu'il fait un très grand soleil sur la quasi-totalité du pays. Seule la façade atlantique va se réveiller sous les nuages qui vont se dissiper au fil de la journée. Quelques brouillards attendus cet après-midi sur les Pyrénées, mais sinon c'est une belle journée avec des températures qui vont ce matin de 13 à 19 degrés.